bien, mais soit appris comme un tout. Attaché à cette petite fille rose, j'avais l'impression qu'en fait, elle généralisait, c'était toutes les petites filles du monde entier, quoi. Cette histoire de chaise bleue, enfin, moi, je trouve ce texte très érotique, mais il y a peut-être que moi. Je sais pas, cette histoire de chaise bleue, c'est monter, escalader une montagne avec une chaise bleue dans ses bras, c'est aussi absurde que nous qui travaillons pour gagner de l'argent, pour vivre sur Terre, quoi. C'est le même but. Et une fois qu'on s'est fixé un but, que ça soit, par exemple, intervieweuse de radio, ben, après, quand on est arrivé là, après on se dit, ah ben maintenant je voudrais... Enfin, on se fixe des buts de plus en plus hauts, de plus en plus difficiles, et qui sont, pourquoi pas, aussi absurdes. Pourquoi plus intervieweuse de radio que d'escalader une montagne avec une chaise dans ses bras, que d'être comédienne ou que d'être, je sais pas, technicien, quoi. C'est... J'ai trouvé quelque chose de philosophique, quoi. J'avais l'impression que Gertrude Stein, avec des phrases toutes très très simples, elle arrivait à dire à cette petite fille des choses très très importantes, comme pourquoi on était sur Terre, comme le plaisir aussi, enfin la fragilité qu'il pouvait avoir à arriver quelque part quand on s'est fixé ce but. Et ça peut durer qu'une fraction de seconde où tout est parfait, tout nous satisfait, mais quelques secondes après, on sera obligé, pour pouvoir continuer à vivre, on sera obligé de se fixer un but encore plus grand et de faire avancer, parce que quand c'est à la perfection, c'est fini, quoi, on ne sait plus quoi faire. Et puis, je trouvais aussi qu'elle elle parle beaucoup, bon, il y a cette histoire de Willy, le lion, Willy qui, dans le livre... se marie en fait avec Rose, c'est bien connu, quoi. Ils sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants. Et elle parle donc de choses tout bateau, quoi, qu'on parle aux enfants, de la sexualité, que Rose n'est pas pareille que Willy a un lion, elle en a pas, que ça peut poser des questions, ça peut même être complètement... ça peut même faire peur, quoi. Que les femmes et les hommes soient pas pareil et qu'un jour ils se rencontreront, et comment ils se rencontrent, et pourquoi il y a cette différence, et pourquoi on est une fille et pourquoi on est un garçon, et ça on peut pas le prévoir, on peut pas le... Et les questions que se pose Rose, c'est des choses pareilles que de parler du monde est rond, parce que c'est... D'abord le livre s'intitule comme ça, c'est le monde est rond, mais ça commence comme ça, quoi. En ce temps-là, le monde était rond, et... Ça a l'air d'une évidence maintenant que la Terre est ronde, mais pendant longtemps, c'était pas évident. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont soi-disant évidentes et que les adultes, une fois adultes, se posent plus la question. Et quand on se repose la question... Enfin, on a oublié des évidences et quand on se les repose, même si c'est des évidences, ça suscite quand même encore des questions. Que ce soit pourquoi la Terre est ronde... Pourquoi, effectivement, à un moment, elle dit... et Rose était son nom, et aurait-elle été Rose si son nom n'avait pas été Rose? On peut se le demander. Ou si elle avait été une jumelle, alors ça aussi... Pas... Je sais que Gertrude Stein, l'histoire de la jumélité, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, c'était très important pour elle. Peut-être parce qu'elle aimait les femmes. Ça aussi, c'est sûrement... Ça a beaucoup joué. Elle aimait... Elle a vécu avec une femme pendant des années qui s'appelait Alistoclas. Et je me suis souvent demandé, les femmes qui aimaient les femmes, c'est forcément arriver à ne pas... On ne se confronte pas à notre différence, on se confronte à soi-même, quoi. Donc c'est aussi l'histoire de la jumélité. Elle se posait souvent cette question, Gershon, elle en parle très souvent parce qu'elle a écrit un autre livre qui s'appelle Ida, et c'est l'histoire de deux jumelles qui s'appellent Ida. Donc elle, ça devait... L'histoire de savoir si on est unique ou si on aurait pu être quelqu'un d'autre ailleurs, quoi. Ça, c'est toujours étrange. Voilà, sinon... qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Ce texte a visiblement suscité beaucoup de réflexions chez vous. Oui. Est-ce que vous êtes consciente que, quand vous jouez, vos yeux sont comme des sortes de rails qui arrivent dans nos yeux à nous et qui donnent tout à coup... une importance très grande aux mots que vous êtes en train de dire. Plusieurs personnes que je viens d'entendre à la sortie du spectacle m'ont dit, mais c'est étonnant, on est accroché à ses yeux. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus?
Alors là, pas du tout. Non, ça, je ne suis pas consciente. Enfin, c'est une lecture. Au départ, c'est vécu comme une lecture. Et donc, bien que je connaisse le texte, c'était important pour moi de relire à chaque fois, de toujours recommencer. Donc, effectivement, je baisse les yeux. Mais si je baissais les yeux tout le temps, comme on fait pour une lecture, il n'y aurait pas de contact avec les gens, avec le public. Donc, c'est vrai que le seul contact que je peux avoir, c'est les moments où je vous regarde et après les moments où je me ressource dans le livre et que je réapparais. Alors, non, ça, je n'ai pas du tout travaillé le regard, ni les yeux, ni. Je me les maquille, mais.
Parce qu'il y a finalement peu de mise en scène, de déplacement. Tout est basé beaucoup sur votre attitude corporelle, justement. Donc, il suffit d'ouvrir un œil pour que tout le monde le voit.
Ça, c'est sûr. Il suffit de faire aussi autre chose pour que tout le monde le voit. Non, ça, c'est vrai. Il y a très peu de mise en scène. Enfin, c'est une sorte de mise en scène, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gestes, ni beaucoup de déplacements. Ça, c'était une chose. C'était intéressant pour moi, parce que moi, j'ai tendance à bouger tout le temps, à parler n'importe comment. Je ne sais pas s'ils vont comprendre, d'ailleurs, ce que je dis, mais. Et cette face. Xavier, c'est le contraire. Xavier, c'est quelqu'un de très rigoureux, comme ça, d'assez rigide. Il a travaillé longtemps avec Claude Régis. Moi, je ne le connais pas bien, mais j'ai vu une pièce de lui. C'est carré, comme ça. Très. C'est très beau. Et je me disais, effectivement, que je redécouvrais, enfin, ou plutôt, je découvrais, tout court, que le fait de limiter les choses, de donner qu'une petite chose, du coup, au lieu de disperser les choses, ça les concentrait et on fait un geste et ça signifie beaucoup de choses puisqu'on n'en fait aucun pendant une demi-heure et du coup, si je me mets à lever le bras et faire un rond, tout le monde va voir, elle lève le bras, elle fait un rond. Alors que si je bougeais comme je voulais, comme quand on parle, ben, au bout d'un moment, je pense que les gens seraient moins sensibles à plein... On entendrait moins, quoi. Maintenant, c'est aussi plus facile... de raconter une histoire en étant précis que en sachant pas dans quelle direction aller, quoi. Mais les yeux, ben... Moi, par exemple, bon, là, c'était un petit peu fort, mais je lui avais demandé, à la lumière, de voir les gens au début. Parce que c'était d'abord pour garder l'idée de la lecture. Je vous racontais une histoire et il fallait que je voie les gens à qui je parle parce que c'était tout de suite dans le noir. J'étais déjà toute seule, isolée et j'avais peur que ça me... que déjà, il n'y ait pas de contact entre moi et vous, quoi. Et du coup, forcément, ça passe par les yeux. Et ça, c'était vachement important pour moi. Puis surtout parce que je voyais plein de pièces de théâtre et je voyais plein d'acteurs quand ils jouaient. Ils ne regardaient pas les gens, ou ils avaient les yeux dans le vague. Et du coup, souvent, je me posais la question, je disais, ils mettent comme un voile entre le public et eux. Et pour moi, le théâtre, c'est le contraire, quoi. C'est une telle... Ça devrait être toujours quelque chose... On donne. Bon, enfin, c'est ce que j'essaie de faire, mais...
Le fait qu'il y ait de temps à autre les traductions en anglais du texte, c'était une chose importante, et pour Xavier Marchand et pour vous-même, dans le sens que de retomber sur ce qui est le texte original, qui donne peut-être une autre idée, parce qu'il y a les mots qui se rejoignent au niveau des sons, il y a les mots qui veulent dire des choses bizarres parce qu'ils sont mis l'un à côté de l'autre, ce qu'il y a parfois moins avec la traduction française.
Ben, moi, je crois que c'était vachement important. L'idéal aurait été de faire ce texte en anglais. Parce que Gert Ochon, elle a écrit ça en anglais, elle n'a jamais écrit en français. Et elle écrit tellement comme la poésie pour que la sonorité... Et donc il y a plein de moments, par exemple, quand elle dit... Enfin, il y a plein de moments en français où les mots qui n'ont pas de rapport, n'ont pas de... Comment on appelle ça de, ils n'ont pas les mêmes sonorités. Et ça, et elle a écrit ça, mais par exemple, à un moment, elle dit... Willy be silly, silly comme idiot et Willy parce que silly et Willy ça rime, et là c'est Willy est un sot, ce qui n'a rien à voir en français. Alors, oui, je crois que c'était très important pour Xavier qu'on entende l'anglais, parce que c'est écrit d'abord en anglais, qu'on entende comment elle a écrit ça pour que les mots se rejoignent, et puis que souvent, malheureusement, ben, c'est plus beau en anglais. Dans la sonorité, dans le son, c'est plus beau.
Mais vous avez la contrebasse.
Ah oui, moi j'ai la contrebasse. Enfin, c'est pas moi qui l'ai, c'est Vertus Birman, mais j'ai la contrebasse.
Non, mais dans le sens que les mots français sont accompagnés par la musique, on retrouve une autre musique. Si l'anglais a dans ses sons peut-être une autre musique, le français soutenu par la musique de la contrebasse, ça vous aide beaucoup, ça?
Ah oui. Ah, s'il n'y avait pas Vertus, je ne sais pas ce que je ferais. Oui, bien sûr, ça m'aide beaucoup, la contrebasse. D'abord, ça aide à rentrer dans une histoire. C'est comme, ça fait comme un petit conte, j'ai l'impression de... C'est, ça aide beaucoup pour voyager, pour écouter, pour aussi écouter, quoi. Parce que ça aussi, c'était important qu'il y ait des silences, que les gens puissent écouter, que moi, je puisse écouter, Hubertus puisse écouter, qu'il y ait des... que les mots travaillent comme ça dans les coudes. Dans... Et moi, j'aime beaucoup, en plus, la contrebasse, ce son-là, parce que c'est pas une musique très... forcément défini, harmonique, et ça, et donc pour l'imagination c'est encore plus fort parce que ça correspond à des bruits, par exemple les étoiles. On a fait un, il a inventé un bruit d'étoiles. Les étoiles font pas de bruit, on le sait bien, mais maintenant moi j'arrive à croire que les étoiles font du bruit, je le crois. Comme la cascade, les cascades elles font pas du tout ce genre de bruit, mais ça c'est une cascade qui fait ce bruit là. Ouais, je trouve ça, heureusement qu'il y a la contrebasse.
Ce n'est malheureusement pas la contrebasse d'Hubertus Birman, mais c'est celle d'Anthony Cox, accompagnée de Jerry Allen au piano, une pianiste de grande renommée. Et nous retrouvons Maïté Mallier. Maïté Mallier qui nous a lu Le Monde est rond de Gertrude Stein, mise en scène par Xavier Marchand dans le cadre d'un spectacle présenté au théâtre du Grütli pendant le festival de la Bâtie.
Toute seule.
C'est quoi qui vous a encouragé à travailler sur ce texte? C'est le personnage de Gertrude Stein, qui est vraiment quand même un personnage étonnant pour son époque, qui s'est passionné pour la peinture de Picasso, de beaucoup de gens avant que personne s'y intéresse, celle qui s'est lancée dans cette nouvelle écriture. C'est une femme qui vous intéressait comme telle, et ça vous a un peu... vous êtes lancée dans l'aventure un peu à cause d'elle?
Ah non, là je vais vous décevoir, pas du tout. Non, au départ c'est Xavier qui m'a mis dans ce texte-là. C'est Xavier Marchand qui m'a choisi pour faire ce texte. Moi je ne connaissais pas du tout Gertrude Stein. J'avais pratiquement jamais fait de théâtre. Je lui avais même déconseillé de me prendre parce que j'articule tellement mal que je me disais que ça ne marcherait pas. Et puis c'est grâce à lui que j'ai découvert... Enfin, que j'ai découvert Gertrude Stein. Sans lui, je ne l'aurais pas connue. Ensuite, Gertrude Stein, c'est pas... Elle m'intéresse parce qu'elle a écrit ça et qu'il y a des choses que j'aime bien. J'ai lu énormément de choses d'elle, c'est pas facile et j'aime pas tout. Mais je crois que ce que je préfère avant tout, c'est Rose. C'est cette fille qui... Elle a vécu, enfin, elle a existé, Rose. Et d'ailleurs, elle est morte juste l'année où on l'a jouée. La première année où on l'a jouée, parce qu'on voulait l'inviter. Et moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est cette petite fille où je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie... elle ne m'était pas étrangère, quoi. je comprenais bien cette façon d'être, cette façon de penser, enfin sa sensibilité, j'aimais beaucoup. Et puis, je crois que ce qui m'a aussi le plus tenté, enfin, pourquoi je tiens beaucoup à cette pièce, c'est l'idée de lecture. C'est que maintenant, ça se perd. Et avant, il y avait des conteurs. Et ça, enfin, moi, personnellement, j'adore qu'on me raconte des histoires. Et je me disais, ça doit être merveilleux, ça devrait être merveilleux quand des gens arrivent à raconter une histoire. On est là, simplement, on écoute une histoire. Et c'était l'idée aussi de raconter une histoire aux gens qui ne connaissaient pas, leur faire découvrir une écriture qui est quand même particulière, et que ça soit pas que ça soit différent, que c'est pas un théâtre d'action, c'est pas Richard III, c'est pas tout repose en fait sur Hubertus et moi, enfin le truc. Donc bon, évidemment, si on est chiant, c'est chiant quoi, mais c'est plutôt l'idée de revenir à quelque chose de simple quoi, raconter une histoire comme quand on est enfant et que notre mère nous raconte une histoire. Maman, Gertrude Stein, oui, elle est intéressante. Elle est intéressante, bon, moi je l'aime bien parce qu'elle était très prétentieuse et puis elle était sûre que ce qu'elle écrivait était révolutionnaire. Elle n'avait pas tort dans ce sens-là. Et puis c'est vrai, là où elle devait avoir aussi beaucoup d'instinct pour reconnaître Picasso comme un grand peintre, pour reconnaître Matisse, pour reconnaître plein de peintres comme ça qui, au départ, tout le monde s'en foutait. C'est vrai que ça c'était... Elle avait, artistiquement parlant, elle avait forcément un goût, quoi.
Voilà. Vous disiez que vous n'aviez pas beaucoup fait de théâtre jusque-là ?
Non. Non, moi, j'ai commencé par faire du cinéma, par hasard. Bon, ça, c'est le verre qui s'écroule. Et puis, la première fois que j'ai joué, c'était au Café de la Gare, à Paris. Enfin, moi, je suis de Paris, alors je jouais tout à Paris. On était deux aussi. Et puis après, non. Et juste après, j'ai fait cette pièce. Enfin, juste après, des années après. Mais c'était la deuxième pièce que je faisais, que je jouais au théâtre, quoi. Et après, bon, j'en ai fait deux autres, mais dans la suite. Non, j'ai pas fait beaucoup de théâtre, et puis j'ai pas fait d'école non plus, alors... alors, bon, voilà. Ouais,
Merci à Maïté et Maillé de m'avoir reçu tout de suite après le spectacle quand on récite un texte de cette force pendant plus d'une heure. Eh bien, merci de m'avoir encore donné tout ce temps pour nous parler. J'ai rencontré après un autre spectacle, présenté toujours par Xavier Marchand, un montage de texte du poète français Mallarmé. Eh bien, j'ai rencontré Xavier Marchand qui m'a expliqué pourquoi il avait choisi tous ces textes et cette passion qu'il a autour des mots. Mais tout de suite, pour commencer, je vais vous passer un extrait de ce magnifique collage de textes de Mallarmé.
Lequel des deux faut-il croire, mesdames, le témoignage de ses yeux ou celui de ses oreilles? Il s'agit de dire au juste s'il y a beaucoup d'acheteurs à Paris ou s'il est vrai que les affaires n'y vont pas du tout. D'après ces foules qui se pressent en ce moment dans les galeries du Louvre et du Bon Marché de la rue de Sèvres, on dirait que tout Paris s'est donné le mot pour faire l'affaire des maisons de nouveauté. Chacun s'acquitte de cette tâche aussi avec un entrain qui ne laisse rien à désirer. Qu'on aille chez Monsieur Porte, en équipage à deux chevaux, attiré par les trois nouvelles robes du créateur renommé, ou qu'on aille à la Malle des Indes pour les cachemires, couleur thym, loutre et héron, partout le même ensemble dans un désir immense de dépenser de l'argent. Il y a pourtant des gens que cette manière de faire vivre les fabricants fâche beaucoup et qui disent obstinément que rien ne va plus de notre capitale. Cela irrite les gastières. Mais il faut savoir écouter les mécontents. Tout le monde n'est pas heureux.
Tout le monde ne peut pas acheter des robes bleu rêve, chaos et infantes, ni des tuniques loutres en pure laine du Tibet. Je les ai nommées ces trois fameuses robes, et dussé-je m'attirer les colères des envieux, je veux décrire au moins la robe bleu rêve.
Nous avons toutes rêvé cette robe-là sans le savoir.
Xavier Marchand, vous avez monté trois spectacles dans le cadre du Festival du Bois de la Bâtie, qui sont tous des spectacles qui utilisent les mots avec... Je ne sais pas si je peux donner mon avis, mais en tout cas, un sens merveilleux du mot. Et en tout cas, une façon de faire vivre les mots que j'ai trouvé absolument fascinante personnellement. Et je me suis dit surtout que si j'avais lu ces textes au lieu de les entendre tels que vous nous les avez présentés, très certainement que j'aurais vite fermé le livre et j'aurais renoncé à continuer ma lecture parce que certains d'entre eux me semblent très illisibles comme ça en tant que lectrice. Et est-ce que pour vous, alors, c'était c'est un enjeu particulier, c'est une passion particulière de faire vivre les mots comme ça pour les gens dont vous savez que c'est des textes difficiles et pas évidents à approcher comme ça, simplement, comme lecteur?
Ce sont des textes, avant tout, que moi j'ai beaucoup aimé et que j'aime beaucoup, qui sont des recherches sur la langue très poussées dans le cadre de Gertrude Stein et de Mallarmé, et aussi pour Robert Walser qui composait ses textes au rythme de ses promenades et qui rentrait chez lui, transcrivait ce qui s'était écrit pendant ses promenades sans pratiquement aucune rature, puisque les gens qui connaissent un peu Robert Walser et ceux qui l'ont ou approché ou côtoyé, enfin côtoyé en tout cas ses œuvres originales, étaient très étonnés de voir qu'il y avait extrêmement peu de ratures dans ses compositions, quoi. Bon, c'est vrai que je me suis quand même... le choix de ces textes, bon, pour l'un, l'autre et le troisième, j'ai toujours cru ce qui se dégageait de ces textes-là, qui sont des textes, comme le sont d'ailleurs souvent les livres, adressés à quelqu'un, puisque c'est adressé à un lecteur. Donc le jeu de ces trois spectacles, c'était de trouver une correspondance dans le rapport que l'auteur instaure avec son lecteur. Bon, pour Mallarmé, j'ai simplement cru une phrase de Mallarmé qui prétend que tout écrit provenant de la parole doit pouvoir subir l'épreuve de la profération. Et Mallarmé était un très grand orateur, puisque durant ces après-midi, ces célèbres mardi après-midi rue de Rome, il fascinait son auditoire par sa brillante conversation. Et ces textes qu'on peut lire, recueillis sous le titre de Divagation, étaient en essence ce qu'il racontait durant ces après-midi. Et ses amis prétendaient que ces textes les plus obscurs, dits par lui, semblait tout à fait clair. Et bon, ça c'est une des choses qu'on m'a dit, en particulier pour les textes de Mallarmé, c'est que, et je le sentais simplement pour l'avoir cru, que ces textes-là à être dits sont effectivement plus compréhensibles qu'à être lus.
On disait souvent des textes de Gertrude Stein aussi qu'ils étaient illisibles.
Ça, peut-être sur un autre plan, parce que sa langue est quand même extrêmement, justement, elle a raréfié les signes, et elle a utilisé des formules grammaticales et syntaxiques extrêmement simples, en jouant de tout le principe de répétition, d'allitération, et bien évidemment ce texte de Gertrude Stein, la traduction perd beaucoup par rapport au texte original. Bon, vous en avez entendu quelques bribes en américain, où on sent bien que tout le jeu d'allitération est bien plus poussé, et qu'évidemment, dans ce jeu-là, de ce jeu-là, se dégagent des sens qu'on ne peut pas retrouver dans une traduction française. Un des sens les plus simples, c'est le mot rose, qui est en anglais, c'est rise, rose, reason, qui veut dire s'élever. Bon, et c'est l'élévation de cette petite fille sur le flanc d'une montagne, mais aussi dans sa vie, puisque c'est quand même une fable de la sortie d'une petite fille de l'enfance, quoi.